Je possède.
Bonjour. Ah non, 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 non. Calme-toi. Excusez-moi, il était encore activé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, j'ai vu le clip du petit chat qu'on gratte. Ouais, merci. Merci. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue. Et oui, effectivement, le petit chat qui vient dire bonjour en stream, ce n'était jamais arrivé. Non, mais c'est même pire que ça. Le petit chat, elle est jamais sortie de sa cachette en pleine journée comme ça. Elle avait jamais fait ça. Sortir de sa cachette, venir dans une pièce dans laquelle je suis, venir faire ses besoins comme ça en dehors de... Enfin, à un autre moment que la nuit, elle a absolument jamais fait ça. C'était vraiment la première. J'étais le premier surpris. Je pense pas que ça réarrivera demain matin. Hein. Je laisse la porte ouverte au cas où, mais... Mais voilà, quoi. Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci, Larsul pour ton resub, merci Ozzy pour ton resub, merci Rock, merci Nexus, merci Chafo, merci Rou, merci Okelao, qui a offert 5 abonnements, c'était hier. Merci Lily pour ton resub. Merci beaucoup. Hop. Ça va toi, pas trop fatigué? Si, moi je suis très fatigué en ce moment. Pour ne rien vous cacher, je suis en train de changer de traitement pour ma maladie. Et donc ça me tape un petit peu sur les nerfs. C'est un chouïa compliqué. Bonjour Altis, salut à toi. J'essaie de préparer un entraînement de rugby pour mes petits U10 et tu te mets en stream. Et oui, je suis désolé. Donc voilà, donc je suis fatigué. Je suis fatigué et très déprimé. Donc la période n'est pas la plus joyeuse pour moi, pour rien vous cacher. En plus, comme évidemment je suis, je sais pas, j'ai envie de m'attaquer à tous les sommets en même temps, j'essaye de réduire ma consommation de cigarettes, ce qui n'est pas facile pour un gros fumeur comme moi qui fume depuis des années. Donc je tente des substituts nicotiniques, ça marche assez bien. Ça marche assez bien, j'arrive à ne pas trop avoir envie de fumer, j'arrive à fumer que quelques cigarettes. Force à toi Jean, merci, ça fait plaisir. Courage, tu vas y arriver, c'est très gentil. Donc j'ai pas encore complètement arrêté de fumer, je fume 3 cigarettes par jour, ce qui pour moi est très très peu. Hein. Donc voilà, gratuit ou payant les patchs, c'est payant. Donc j'ai essayé le patch, j'ai différents types de substituts nicotiniques. Je pense qu'il me faudrait une cigarette électronique, sauf que j'en ai pas. Et ça coûte cher et j'ai pas les moyens d'en acheter une. Donc pour l'instant, on va continuer comme ça. C'est pas remboursé par la sécu, le patch? Pas entièrement, non. Et évidemment, j'ai pas de mutuelle, il faut que je me trouve une mutuelle, c'est compliqué, j'ai pas les moyens, enfin bref. La période est un peu chiante. Mais c'est pas grave, il faut tenir. Et donc voilà, donc stream aujourd'hui pour la séance des questions au gouvernement. Demain, on fait un backseat spécial en partenariat avec France Digital. On va vous présenter des entreprises innovantes assez intéressantes. Je renouvelle ma dispo pour parler de clopes électroniques. Il y a moyen de s'en sortir pour pas si cher si on creuse un peu. Moi, là, ce dont j'aurais besoin, c'est qu'un pote me file une vieille cigarette électronique qui traîne et qui lui sert plus. Faut que je trouve un pote qui ne se sert plus de sa cigarette électronique. Je suis sûr qu'il y en a qui traînent dans un tiroir et tout. Et que voilà. Très hâte du prochain backseat. Bah, ça fait plaisir, merci à toi. Ouais, moi aussi, on est en train de le préparer. On a fait notre réunion éditoriale ce matin. L'invité de la semaine, du coup, ce sera le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui est invité donc une deuxième fois à venir sur backseat. C'est la deuxième fois donc qu'il revient sur backseat et on va parler avec lui d'écologie, d'environnement. Il y a pas mal de choses dont on voudrait discuter avec lui sur les prix de l'énergie, sur l'industrie, sur la transformation industrielle, la réindustrialisation, les pénuries de médicaments. Enfin bref, si je commence à faire la liste, on a beaucoup de choses à lui demander au ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Donc voilà. Il a bien aimé la première fois, on dirait. Il a trouvé ça intéressant, il était OK pour revenir. Merci Lomi pour ton resub. Merci Artemis Diane. Merci Westripy. Merci Le Popote. Merci Matt. Merci Exode. Merci Alfred. Donc voilà, donc désolé si je ne suis pas au top de ma forme en stream en ce moment. C'est parce que la période n'est pas facile pour moi. Mais on fait le dos rond, on dort, on se défonce aux anxiolytiques et on avance. Merci Docteur Stuche. Et merci Clink. Force et honneur, comme disait la Cri. Ouais. On s'inquiète surtout pour toi, en fait. C'est très gentil, Radinus, de t'inquiéter. Rassure-toi, je vais bien. Je fais aller, comme on dit. Et voilà. Et le gouvernement donc est passé, enfin le gouvernement, le Parlement, l'Assemblée nationale est passée à deux séances de questions au gouvernement par semaine. Donc là aujourd'hui, on va avoir pour la première fois une séance de questions au gouvernement à 14 h à l'Assemblée nationale, à l'issue du Conseil des ministres. Et on va voir. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient faire une séance le mercredi, qui dure pas très longtemps, que 45 minutes, mais avec surtout des questions dirigées vers la Première ministre, Elisabeth Borne. Donc. Est-ce que les questions d'aujourd'hui sont uniquement sur ce qui se dit au Conseil des ministres ou ça peut être sur tout? Ça peut être sur tout, ça peut être sur tout. Les députés sont libres de poser les questions qu'ils veulent. Donc on verra bien. On verra bien. Moi je suis comme vous, je ne sais pas exactement ce à quoi on va assister. Je vais voir un petit peu. Est-ce que c'est Elisabeth Borne qui répond à toutes les questions? Ça a donné quoi le regroupement de maires à Paris? Le Salon des maires de France vient à peine d'ouvrir ses portes. Donc pour l'instant, ça n'a rien donné. Mais on en parlera dans Backseat, ça, parce que on a prévu d'en parler dans Backseat du congrès des maires de France, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de ne pas y aller. Il s'était fait huer. Non, c'était pas lui qui s'était fait huer, c'était je sais plus quel ministre. Jacqueline Gourault s'était fait huer il y a quelques années au congrès des maires de France. Donc du coup, je crois qu'Emmanuel Macron, il veut s'éviter l'humiliation d'avoir des maires en écharpe tricolore qui le huent. Et donc à la place, il organise un petit cocktail à l'Élysée pour accueillir les maires. Merci Klingdis pour les 5 subs offerts au chat.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup pour les 5 subs offerts au chat, Klink. C'est très généreux de ta part. Merci pour ton soutien. On en est où du procès d'Éric Dupond-Moretti? On en est à la phase du délibéré. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le jugement qui sera rendu par la Cour de justice de la République. Est-ce que les ministres connaissent les questions à l'avance? Alors, c'est pas automatique. Les députés ne sont pas obligés de donner à l'avance le sujet de leurs questions aux ministres. Ils peuvent choisir de le faire, soit parce qu'ils sont membres de la majorité, soit parce que, quand bien même ils sont opposants au gouvernement, ils veulent avoir une réponse concrète et précise à leurs questions. Mais il n'y a pas d'automaticité. Les députés ont la possibilité, s'ils le préfèrent, de ne pas déclarer à l'avance leurs questions. Mais quand bien même les députés ne donnent pas à l'avance leurs questions, ça n'empêche pas les ministres de se préparer et de parer toute éventualité avec des réponses préécrites sur des sujets d'actualité. Les ministres connaissent l'actualité de leur ministère, ils connaissent les dossiers principaux de leur ministère, ils savent de quoi on parle, ils savent ce qui inquiète les députés, donc ils peuvent préparer des fiches pour répondre aux questions. Si jamais une question tombe sur tel sujet, il y a toujours un ministre qui pourra y répondre. Est-ce qu'ils connaissent le nom de ceux qui vont poser les questions? Oui, absolument. La liste des orateurs de la séance est publique, donc on n'a pas le sujet de leurs questions, mais on sait qui va poser des questions. Donc les ministres, ils peuvent, leur cabinet, leur entourage, leurs collaborateurs peuvent téléphoner avant à l'équipe des députés qui vont poser une question pour leur dire, bon, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous avez l'intention d'interroger le gouvernement? Comme ça, nous, on peut se préparer et vous préparer une réponse. Donc voilà. Mais oui, la liste des orateurs est publique. Le sujet de leurs questions, ils ont le droit de le donner ou pas au gouvernement. Comment sont choisis les orateurs? Les orateurs sont choisis par leur groupe. Les députés sont membres de groupes à l'Assemblée nationale. Chaque groupe a un quota de questions à poser chaque mardi, chaque mercredi. Et en fonction, après, les groupes se démerdent en interne pour désigner le ou les orateurs qui vont prendre la parole à l'occasion des questions. C'est 45 minutes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 45 minutes de séance de questions au gouvernement. Il n'y a que 10 questions aujourd'hui. C'est une séance avec seulement 10 questions en 45 minutes. Est-ce qu'il n'y aura que Elisabeth Borne? Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai compris que c'était une séance plutôt réservée aux questions à la Première ministre. C'est ce que j'avais compris. Mais on verra si, je sais pas, j'en sais rien. Au final, la séance d'hier, elle ressemblait un peu aux séances de questions orales sans débat, ouais, les QOSD, ouais, qui ont parfois lieu le matin en plus petit comité sur le même format, exactement. Les questions orales sans débat, je crois que c'est qu'un seul ministre qui est invité, non? C'est en général les questions orales, on focus sur un ministère ou un sujet. Est-ce que c'est fréquent ce genre de séance? C'est toutes les semaines. Toutes les semaines, les députés, donc nos représentants, interpellent le gouvernement sur des sujets d'actualité lors des séances de questions d'actualité au gouvernement, QAG pour les intimes. Et donc ça a lieu toutes les semaines. Ça a lieu à l'Assemblée nationale le mardi et le mercredi, et ça a lieu au Sénat le mercredi. Donc là, à l'issue de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée, les ministres vont monter à l'arrière de leur voiture et hop, direction le Sénat pour rebelote une autre séance de questions au gouvernement, mais cette fois-ci au Sénat. Bonjour Jean, où se déroulent ces questions? Dans quel bâtiment? À l'Assemblée, c'est une séance face à tous les députés, même s'il n'y a qu'un orateur par groupe. Absolument, tous les députés ont la possibilité de venir siéger dans l'hémicycle, c'est leur boulot, ils ont le droit. Ils peuvent aussi ne pas venir dans l'hémicycle et préférer rester dans leur bureau pour travailler. Ça se passe dans quel bâtiment? Ça se passe au Palais Bourbon à Paris. Le Palais Bourbon, c'est le siège de l'Assemblée nationale de la République. Et plus précisément, ça se passe dans l'hémicycle, là où se tient ce que l'on appelle la séance publique, par opposition aux salles de commission, par exemple. Les questions au Sénat, c'est pas retranscrit en live. Si, les questions au Sénat, c'est retranscrit en live sur la chaîne publique Sénat à la télévision et sur le site internet du Sénat. Mais donc, je vous redis qu'aujourd'hui, c'est une nouveauté, donc une séance un mercredi. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu l'habitude d'avoir une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée un mercredi. Les QOSD, je me demande si c'est pas le ministre de tutelle ou les ministres délégués. J'en ai regardé une fois. Je crois qu'il y avait plusieurs ministres. Ah, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un ministre de tutelle avec ses ministres délégués. C'est possible. Est-ce que l'Assemblée et le Sénat sont loin l'un de l'autre? Écoute, regarde, on va regarder sur Google Maps. Assemblée nationale. Hop, itinéraire. Sénat. C'est à 12 minutes en vélo. Attends, j'ai oublié, je vais retirer ça. Voilà. Si tu y vas en vélo, t'en es à 12 minutes, c'est 30 minutes à pied. Et en voiture, c'est comme en vélo, c'est 12 minutes. Le Sénat siège ici, au palais du Luxembourg, qui est devant les jardins du Luxembourg, et l'Assemblée nationale siège ici. Ah non, mais ça, c'est le métro, Assemblée nationale. Moi, je veux pas le métro de l'Assemblée nationale, je veux l'Assemblée nationale. Palais Bourbon, rue de l'Université, voilà, c'est ici l'entrée de l'Université. Voilà. Donc voilà. Voilà où se situent les deux bâtiments. C'est pas très loin. C'est quoi ça? Ah, je savais pas qu'on avait des vues en 3D quand on survole. Le palais Garnier, ça ressemble à quoi? Waouh! C'est beau! Waouh! L'hôtel des Invalides. Waouh! Est-ce qu'on a l'Assemblée nationale? Ah non, on n'a pas la vue 3D de l'Assemblée nationale, on a que les Invalides. Pareil pour le Sénat. On a le Panthéon. Waouh! Je savais pas qu'il y avait ça sur Google Maps. Enfin bref. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'est 1h15 et 45 minutes et non pas 1h, 1h? Non, je ne connais pas la raison. Je ne connais pas la nouveau. Je ne connais pas la raison. Et du coup, tu fais pas les questions au gouvernement version Sénat parce que c'est un peu des redites des QSG. Non, mais j'ai déjà fait les questions au gouvernement au Sénat le mercredi après-midi. Je l'ai déjà fait. C'était en partenariat avec Public Sénat à l'époque. Je n'ai plus de partenariat avec Public Sénat, donc j'ai pas envie de faire les questions au gouvernement au Sénat. Je le faisais dans le cadre d'un partenariat qui n'a pas été reconduit. Hier, le président a dit aux dirigeants des entreprises, réveillez-vous à propos du taux de chômage, qu'entend-il par là selon toi? Ben, je ne sais pas, il a dû leur dire embaucher. À mon avis, ils se sont dit une question par groupe le mercredi, ça fait 45 minutes, du coup ils ont tranché 45 minutes le mardi. Non, c'est 1h15 le mardi. Et oui, là du coup, on aura une question par groupe. Est-ce qu'on n'aura qu'une question par groupe? Ouais. Oui, bah oui. La France insoumise, les communistes, les écologistes, les socialistes, Renaissance, Horizon, Modem, Liot, les Républicains, Rassemblement national, ça fait 10. Il y a 10 groupes de députés à l'Assemblée nationale, donc une question par groupe. Oui, c'est bien ça, c'est une question par groupe. On verra, hein, si ça se trouve 45 minutes, c'est pas assez. Peut-être qu'ils vont faire 1 heure du coup. Est-ce qu'on connaît déjà les thèmes des questions? Nous, on les connaît pas. Hein. Moi, je les connais pas. On ne connaît pas encore les thèmes des questions. Parfois, il y a des députés qui font des tweets pour annoncer leur thème de questions. Ça arrive, pas toujours. Donc nous, on les découvre. Moi, je découvre en même temps que vous les questions qui sont posées. Je commence mon boulot vendredi. Hâte de recevoir ma première paye pour rejoindre le club Baxit. Ah, ça fait plaisir, Sauce Béarnaise. Merci pour ton soutien. Vous aussi, n'hésitez pas à rejoindre le club Baxit sur KissKissBankBank. C'est grâce à vous qu'on peut faire cette émission. Cette belle émission. Ne voulait-il pas sous-entendre aux dirigeants d'entreprise que pour embaucher, il faut rendre plus attractifs les emplois en tension? Bah, rendre plus attractif un emploi en tension, ça veut dire augmenter les salaires. Hein. Y a pas de, y a pas trop, y a pas mille solutions. Hein. Merci Antoine Manchot pour ton resub. Merci Jacara. Merci Keos. Merci Amriou. Merci Croconorev. Merci Niaou. Merci Tibé. Merci Astral pour vos resubs. Merci pour votre soutien. Ou alors baisser le temps de travail. Ou alors baisser le temps de travail. Quand c'est possible. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire de 49-3 grillée par le gouvernement selon le RN? Alors je ne sais pas à quoi fait référence le RN, mais l'article 49 alinéa 3 ne peut être utilisé qu'une fois par an. Sauf sur les lois budgétaires, où là il n'y a pas de limite, mais sur les lois ordinaires, tu ne peux avoir qu'un seul 49-3 par an, par session, on dit. Si le gouvernement utilise son 49-3 sur la loi immigration, alors il ne pourra plus faire l'usage du 49-3 jusqu'à l'été prochain. Voilà. Donc c'est pour ça que des députés critiquent sans doute l'utilisation, la possible utilisation de l'article 49.3 sur la loi immigration. Et s'il y a une session extraordinaire, il peut, oui, s'il y a une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, enfin du Parlement, pendant l'été, alors il peut utiliser le 49.3. C'est quel groupe la prochaine niche parlementaire? Je crois que c'est la France insoumise, non? Laisse-moi regarder. On est en novembre. Ouais, c'est la France insoumise le 30. Jeudi 30 novembre. À quoi correspond une session? Une session correspond à un temps dans le calendrier où le Parlement siège. La session ordinaire de l'Assemblée nationale dure du 1er octobre jusqu'au 30 juin, je crois. Et du coup, il y a des vacances, hein, pendant ce temps-là, il y a les vacances de Noël et tout machin, donc il y a des semaines de vacances du Parlement. Mais le reste du temps, donc il reste le mois de juillet, août et septembre, il y a 3 mois pendant lesquels le gouvernement peut être réuni en session extraordinaire. Qu'est-ce qu'une niche parlementaire? Une niche parlementaire, c'est un jour dans le calendrier de l'année qui est réservé à un groupe minoritaire à l'Assemblée nationale pour lui permettre d'inscrire à l'ordre du jour les textes de loi qu'il veut faire adopter. Par exemple, des propositions de loi. C'est ça ce qu'on appelle une niche parlementaire. C'est un jour réservé où seul ce groupe-là, ce jour-là, peut choisir quel sera l'ordre du jour. C'est pas la niche LFI aujourd'hui. Non, comme je viens de te le dire, c'est le 30 novembre, la niche LFI. Donc voilà. Est-ce que c'est possible pour un gouvernement d'abandonner un projet de loi si trop d'amendements contre leur projet? Bien sûr. Un gouvernement peut abandonner un projet de loi, c'est déjà arrivé, hein. Rappelez-vous, la première réforme des retraites, elle a été abandonnée suite au Covid en 2020. On parle du 49.3 sur la loi de programmation 2023-2027. Le gouvernement n'avait pas le droit de 49.3 sur cette loi au sens de la réforme de 2008, donc il a grillé sa cartouche. Mais c'est pas un texte budgétaire, une loi de programmation budgétaire? Ah, il y a peut-être un débat là-dessus, j'en sais rien. Il y a peut-être un débat parmi les spécialistes et les juristes pour savoir si on peut considérer une loi de programmation budgétaire comme étant une loi budgétaire. Pourquoi la présence à l'Assemblée nationale n'est pas obligatoire pour tous les députés? Certains ne siègent pas, ou peu souvent il semblerait. Alors, il ne faut pas que tu confondes l'Assemblée nationale et l'hémicycle du Palais Bourbon. C'est deux choses différentes. Toi, là où tu vois des caméras, c'est dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Mais ce n'est pas parce qu'un député n'est pas présent, le cul sur son siège dans l'hémicycle, qu'il n'est pas en train de faire son boulot de député. Le boulot de député, il ne se résume pas à être assis dans un hémicycle et à lever la main pour voter des trucs, ou à applaudir, ou à huer, etc. Le boulot d'un député, il se matérialise dans des rendez-vous, des réunions, des déjeuners de travail, des déplacements, des visites, et encore plus de réunions et de mails et de boucles WhatsApp. C'est un boulot extrêmement complet. Et donc les députés n'ont pas d'obligation de présence en séance publique. En revanche, ils ont des obligations de présence en commission. Les députés ont l'obligation de siéger dans leur commission. Et s'ils ratent trop de séances de commission, pendant les commissions, c'est des mini-assemblées nationales, c'est des groupes de travail. S'ils ratent trop de commissions pendant l'année, ils peuvent avoir une retenue sur leur indemnité, donc une forme d'amende, pour les forcer à être présents en commission. Non, c'est ce qu'avance le FN, il ne pourrait plus utiliser le 49.3 sur cette nouvelle session. Ah bah si on considère qu'une loi de programmation budgétaire, ce n'est pas une loi budgétaire, alors oui, on peut effectivement considérer que le gouvernement a cramé sa cartouche. Mais alors attends, du coup j'ai un doute parce que l'article 49 alinéa 3, il est quand même écrit assez précisément. Hop. L'article 49, 3. Hop. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager sa responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Donc ça, on parle des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Est-ce qu'une loi de programmation budgétaire, c'est une loi de finances? Très bonne question. Je ne sais pas. À quoi bon faire de la politique si on sait qu'en 2027, c'est le RN qui sera élu? Ah bah écoute, si t'as des informations avant nous, félicitations, il y en a qui n'ont pas d'informations avant toi et qui pensent que ça vaut le coup de se battre. Toutes les lois sont budgétaires si elles entraînent des questions liées à l'argent. Non, parce qu'en l'occurrence, une loi budgétaire, ça suit un parcours très précis et très spécifique dans le calendrier législatif. Une loi budgétaire, ça a une forme très particulière. C'est examiné par la commission des finances, il y a un rapporteur général qui a un pouvoir particulier, etc. C'est très spécifique une loi budgétaire, c'est pas une loi comme les autres. En fait, il y a une histoire où ce texte n'est pas une loi de finances et le gouvernement aurait utilisé 2,49,3 sur deux sessions, se chevauchant, une exceptionnelle et le début de la nouvelle. D'accord, ok. Bah écoute, je sais pas où t'as vu ça, moi je suis pas au courant. Je suis pas au courant de ce truc-là. Est-ce que vous allez bien déjà? Bienvenue à vous, hein, si vous nous rejoignez, on est mercredi et on va ensemble assister à une nouveauté, donc en direct, une séance de questions au gouvernement le mercredi à l'Assemblée nationale, 45 minutes de séance. A priori, on devrait beaucoup entendre Elisabeth Borne, la Première ministre, c'est ce que j'ai compris de cette nouvelle séance. Ça nous fera deux séances de questions par semaine. Au lieu d'une de 2 heures le mardi, on en aura deux, une le mardi et le mercredi. Est-ce qu'il existe d'autres façons de faire passer des lois qui ne rentrent pas dans le 49.3? Je comprends pas ta question. Le 49.3, c'est une méthode qui permet de faire passer une loi à l'Assemblée nationale, et uniquement à l'Assemblée nationale, je rappelle. Covidé, donc pas top. Courage à toi, si t'es covidé. Courage à toi. Est-ce que tu penses que ça peut changer quelque chose au niveau de la présence le mercredi? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Moi, je découvre comme vous cette nouvelle séance. C'est une nouveauté. L'Assemblée nationale a décidé de changer son mode de fonctionnement, d'avoir une séance le mardi et une séance le mercredi. L'avantage d'une séance le mercredi, c'est que c'est après le Conseil des ministres. Donc, quand tu veux poser des questions au gouvernement sur son activité, c'est quand même pas mal de le faire juste après le Conseil des ministres, vu qu'il a pris des décisions. Le périphérique parisien vient de passer à 50 km/h. Le gouvernement a un pouvoir là-dessus ou non, et donc pas une question là-dessus. Je ne sais pas dans quelle mesure le périphérique parisien, la vitesse du périphérique parisien, ça relève de la préfecture de police. Je ne sais pas. C'est pas exceptionnel, ce sera tout le temps désormais. La séance du mercredi, pour l'instant, c'est un test jusqu'en février prochain. C'est pas de la politique locale. De quoi? La vitesse du périphérique parisien, si, c'est de la politique locale. Le périphérique parisien, ça concerne Paris et sa banlieue, et la région Île-de-France, mais pas tout le pays. Finalement, qui décide si c'est une loi ordinaire ou une loi de finances ou une loi de programmation budgétaire? Eh bien, c'est la personne qui dépose le projet, donc le gouvernement. Ça dépend du type de véhicule qu'ils utilisent. Les députés n'ont pas l'obligation d'assister aux séances publiques. Elle et il travaillent aussi en commission dans les locaux, les circonstances. Ouais, ne bof. Je sais pas si on va beaucoup l'utiliser, Exode. Mais bon, vu qu'on a de la place. Mais je. Non, non, je sais pas si une loi de programmation budgétaire peut être considérée comme une loi de finances. Je sais pas. J'en sais rien. Pourquoi l'Assemblée a-t-elle décidé de modifier son fonctionnement? Les députés, avant, par le passé, il y avait deux séances par semaine, une le mardi, une le mercredi. En 2019, les députés ont décidé de réunir les deux séances en une seule, le mardi, qui durerait 2 heures. Donc ils sont passés de deux séances d'1 heure chacune à une séance de 2 heures. Ça fait donc depuis 3 ans qu'on a une séance de 2 heures le mardi. Et les députés ont trouvé que c'était très redondant et que la deuxième heure était très chiante. D'ailleurs, vous le voyez vous-même, les députés quittaient l'hémicycle au fur et à mesure de la séance parce qu'en fait, elle n'intéressait pas grand monde. Et par ailleurs, le fait d'avoir une séance le mercredi, ça permet aux députés de poser des questions au gouvernement sur des décisions que le gouvernement a prises le mercredi matin en Conseil des ministres. Parce qu'en France, le Conseil des ministres a lieu le mercredi matin. Voilà pourquoi ils ont changé leur fonctionnement pour passer d'une séance à deux. Donc ils sont un peu revenus en arrière, quoi. Une question peut-être sur les otages libérés par le Hamas, y a-t-il des Français? Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu un accord qui a été signé entre le Hamas et Israël pour des libérations d'otages, des échanges de prisonniers, des trucs comme ça. Moi, je n'ai pas plus d'informations que ça. Peut-être que le gouvernement a plus de questions, donc, a plus de réponses. Donc peut-être que le gouvernement apportera des réponses. Colonna disait qu'elle ne savait pas ce matin à propos des otages. Bah, si, voilà, si la ministre des Affaires étrangères ne sait pas, moi je ne sais pas non plus. Donc on va voir si cette séance cet après-midi sera consacrée principalement à des questions à Elisabeth Borne ou pas. On verra bien. Sur les otages, on ne saura rien tant qu'ils ne seront pas en territoire français et safe, question de sûreté. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça me paraît pas déconnant, effectivement, qu'on n'ait pas d'informations à la minute. On va voir à quoi ça ressemble. En tout cas, ça commence à 14h. Je ne sais pas si c'est un horaire qui vous arrange, vous, 14h le mercredi. On fera avec, bah, comme moi. Exactement comme moi. Pas sûr que l'Assemblée nous demande notre avis. Ouais, malheureusement, l'Assemblée, c'est pas son genre de demander l'avis des citoyens. Si ça nous arrange pas, on peut demander à l'Assemblée de changer. Non, même pas. Donc tu vois, techniquement. C'est quand que la loi immigration revient à l'Assemblée nationale? C'est en ce moment là. C'est en ce moment. L'Assemblée nationale est en train d'examiner la loi immigration. Rectification, la vitesse du périph' passera à 50 km/h à l'issue des Jeux Olympiques. Ben voilà. En off pour une fois, donc content de pouvoir regarder cette fois. Et bah bienvenue à toi, bienvenue à toi, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui nous rejoignent. Si vous avez des questions sur la politique et si je peux vous aider à mieux comprendre la politique, j'en suis très heureux. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai peur qu'avec cette nouvelle formule des QAG, on perde les questions pas très chaudes mais intéressantes de fin de séance, comme sur les dom-toms ou plus précises. Ouais, mais ça dépend des groupes, ça dépend pas de l'Assemblée nationale. C'est les groupes qui doivent se démerder pour donner plus souvent la parole aux représentants d'outre-mer. J'ai une question, pour qui dois-je voter? Pour le candidat ou la liste de candidats que tu souhaites voir élu. Et ça dépend de toi, donc. Les questions sur les dom-toms sont souvent cool, il est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est diffusé, retransmis ce qui se passe pour la loi immigration en ce moment? Oui, sur le site internet de l'Assemblée nationale, vous trouverez un portail vidéo avec toutes les réunions et tous les débats. Toujours aucune annonce sur la condamnation de Moretti. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a été jugé par la Cour de justice de la République et son hypothétique condamnation a été mise en délibéré. Donc on n'aura pas la réponse tout de suite, hein. Ça va peut-être prendre des semaines, hein. Faut pas attendre un claquement de doigts de la part de la CJR, ça prend du temps. Est-ce que la loi sur le RSA est passée par 49-3 ou à la majorité à l'Assemblée? La loi qui a instauré le revenu de solidarité active a été votée à la majorité à l'Assemblée nationale à l'époque. C'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République et il avait une majorité de députés qui soutenaient l'action du gouvernement de François Fillon. En délibéré, c'est-à-dire. Le délibéré, c'est la discussion. Quand il y a plusieurs juges, ils discutent, ils délibèrent pour rendre un verdict. C'est ça un délibéré, c'est une discussion entre les différents membres de la formation de jugement. C'est ça qu'on appelle un délibéré. C'est comme un jury, bah t'as déjà passé devant un jury pour un concours, pour un examen, un truc comme ça. Et bah ensuite, il délibère le jury. C'est comme le conseil de classe. C'est un délibéré, le conseil de classe. C'est ça qu'on appelle un délibéré. Que faire si parmi toute l'offre politique existante, on ne trouve personne à notre goût? Eh ben, on crée son parti. C'est quoi une séance plénière? Une séance plénière, c'est une séance complète avec l'ensemble des membres. Une séance plénière, ça s'oppose à une séance de commission, par exemple. Dans une commission, c'est un groupe de travail, c'est plus réduit, il y a moins de personnes que dans une séance plénière où il y a tout le monde en plénière. Plénière, ça veut dire qu'il y a tout le monde, c'est plein. Ou ça veut dire que tout le monde est invité à minima. Les juges délibérants sont-ils connus ou secrets, pro jusqu'à annoncer la décision? Ah non, on connaît l'identité des juges de la Cour de justice de la République, puisque ce sont des députés et des sénateurs. Alors, ils ne sont pas tout seuls, hein, ils sont aussi avec des magistrats professionnels. Si Dupond-Moretti est condamné, est-ce qu'il est mis à la porte du gouvernement? Est-ce que le choix du président ou bien y a-t-il une commission d'éthique? Il n'y a pas de commission d'éthique, non, c'est le choix du président. Si Éric Dupond-Moretti est condamné par la justice, je ne pense pas qu'il puisse rester membre du gouvernement, puisqu'il y a une obligation de probité. Ça fait partie des conditions pour être membre du gouvernement de la République, et qu'a priori, une condamnation en justice emporte, entache la probité d'une personne qui n'a donc plus les moyens d'effectuer sa mission de ministre. Est-ce qu'il y a une possibilité d'appel? C'est une bonne question. Je crois que oui, il y a la possibilité de faire appel quand tu es condamné pour la Cour de justice de la République. Après, est-ce que l'appel est suspensif? J'en sais rien. Si Macron veut le maintenir, est-ce que LR pourrait soutenir une motion de censure? Sur la seule question du maintien d'Éric Dupond-Moretti, ça, je ne sais pas. Mais les Républicains vont peut-être déposer une motion de censure en cas d'usage de l'article 49.3 pour l'adoption de la loi immigration, comme l'a expliqué sur le plateau de Baxit Olivier Marleix, qui est le président du groupe LR à l'Assemblée. N'importe quelle condamnation peut faire l'objet d'un appel, il me semble. Sauf les condamnations définitives, par définition. Dupond-Moretti, il a été condamné. Non, il n'a pas encore été condamné, Éric Dupond-Moretti. Il n'a pas encore été condamné, Éric Dupond-Moretti. Les juges sont en train de délibérer. Est-ce que tu penses qu'il est envisageable que Macron utilise une pirouette pour garder Éric Dupond-Moretti malgré une... En fait, j'en sais rien. En fait, je ne sais pas. J'ai le même niveau d'information que vous. Éric Dupond-Moretti a été devant un tribunal. Le tribunal est en train de délibérer pour savoir si oui ou non il faut le condamner. À l'issue de son hypothétique condamnation, il y aura peut-être un appel. Donc voilà, moi je ne peux pas vous dire si, avec des si, et si on enchâsse des si dans un si, peut-être qu'éventuellement. Je ne sais pas. J'en sais rien. On verra. La formation de jugement composée de 3 magistrats et de 12 parlementaires se prononce à la majorité absolue et à bulletin secret sur la culpabilité du prévenu, puis en cas de culpabilité, sur l'application de la peine infligée. Son arrêt peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. En cas de rejet de ces décisions, la cour doit être recomposée avant de juger l'affaire. D'accord, ok. Donc c'est directement cour de casse après hein, la CJA. Ce qui n'est pas étonnant, hein, je ne vois pas une cour d'appel ou alors une deuxième CJR dans la foulée. C'est chelou que ce tribunal soit composé de parlementaires. Au contraire, justement, Le but de la Cour de justice de la République, c'est d'éviter que les ministres soient jugés par des magistrats professionnels de manière à éviter de donner un trop fort pouvoir d'appréciation de la politique gouvernementale par les magistrats. Le but, c'est d'éviter le gouvernement des juges et d'éviter que les membres de l'exécutif ne soient entravés par la peur d'être condamnés par des magistrats. C'est le principe de la séparation des pouvoirs. C'est pour ça qu'on a inventé la Cour de justice de la République. Le problème, c'est que c'est une cour qui est très décriée, puisque elle prend beaucoup de temps, les jugements qu'elle a prononcés par le passé étaient décevants aux yeux de l'opinion publique. Donc là, y a plus d'idées de réforme de la Constitution pour permettre une formation de jugement par des magistrats professionnels. Et en plus, pour éviter l'influence, la corruption sur les magistrats. Ouais. Exactement. Au final, c'est bien le pouvoir législatif qui juge le pouvoir exécutif. Ce sont des membres du pouvoir législatif et des membres du pouvoir judiciaire qui, ensemble, forment une formation de jugement à même de juger un ministre pour des faits commis dans ses fonctions ministérielles. Ces juges parlementaires, comment sont-ils nommés? Y a-t-il une parité des groupes politiques? Une égalité de genre? Combien sont-ils assiégés? Alors, égalité de genre, je crois pas. Combien sont-ils assiégés? 12, on l'a déjà dit. Les juges parlementaires, comment ils sont nommés? Eh ben, c'est au début de la session parlementaire où c'est au prorata des groupes. C'est un peu comme le bureau de l'Assemblée nationale. N'y a pas que des députés macronistes. Il y a des députés d'opposition aussi. Donc c'est à la proportion des groupes. Au passage, rien à voir, mais je suis hype de fou pour la reprise au piano de Claire jeudi. Oui, c'est ce jeudi dans Backseat que Claire va reprendre le générique au piano. Ça va être trop bien. Dur de faire la proportion à 12 personnes. Bah, il y a 10 groupes à l'Assemblée nationale qui sont de taille plus ou moins importante. Hop. Les membres de la Cour de justice de la République sont, deux points, Émilie Chandler, Nicole Dubré-Chirat, Didier Paris, Xavier Albertini, Laurence Wichniewski, Vincent Bru, Philippe Gosselin, Xavier Breton, Daniel Obono, Julien Bayou, Bruno Bilde et Anaïs Sabatini. Voilà. Et ça, c'était que pour les députés. Après, il y a aussi des gens pour le Sénat. Donc beaucoup de LR. Comment ça, beaucoup de LR? Il doit y avoir deux LR. Et encore, non, mais moins que ça. Ah non, en plus je me suis trompé, je vous ai donné les titulaires et les suppléants. Les titulaires, c'est Émilie Chandler, Didier Paris, Laurence Wichniewski, Philippe Gosselin, Daniel Obono et Bruno Bilde. Bruno Bilde, il est LR. Il est RN, pardon. Daniel Obono, elle est la France Insoumise. Philippe Gosselin, il est LR, je crois. Ou il n'est peut-être plus LR, il est peut-être passé à l'UDI, Philippe Gosselin, j'ai un doute. Laurence Wichniewski, je crois qu'elle est LR. Didier Paris, je crois qu'il est Renaissance. Émilie Chandler, je crois qu'elle est Renaissance. Laurence Wichniewski. Ah mais non, elle est communiste. Non, pas du tout. Elle est MODEM. Elle est vice-présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Laurence Wichniewski, elle est MODEM. Didier Paris. Il est UDI, Didier Paris. Donc il est toujours pas LR. Enfin bon, bref. Donc c'est pas rempli de LR, au contraire, je pense qu'il doit y en avoir qu'un seul sur les 12. Comment garantir l'impartialité des députés, sachant qu'ils vont juger quelqu'un de leur camp politique ou auquel ils sont opposés politiquement? Mais justement, on n'a pas besoin de garantir l'impartialité des députés. Les députés jugent en leur âme et conscience, en fonction des éléments qui sont produits devant eux pendant le procès, au cours d'un délibéré contradictoire. Pour qu'ils soient condamnés, il faudrait un sacré alignement de planètes, justement. Moi, je sais pas, hein, ça dépend des éléments qui sont présentés devant la cour. Hein. J'en sais rien, j'étais pas au procès. Je sais pas quels éléments ils ont pour éventuellement condamner Éric Dupond-Moretti. Enfin bref, bienvenue si vous nous rejoignez. On va assister ensemble à une séance de questions au gouvernement un peu spéciale en ce mercredi. Normalement, la parole devrait être beaucoup donnée à la Première ministre Elisabeth Borne. C'est un nouveau format de questions au gouvernement qui est organisé à l'Assemblée nationale, un mercredi au lieu du mardi. C'est un test. Les députés vont tester un nouveau fonctionnement d'ici à février prochain. C'est un nouveau ancien format. Bah, plus ou moins, ça dépend. On verra si c'est des questions à la Première ministre et que la Première ministre répond à toutes les questions, ce sera vraiment nouveau, quoi. Sur le site de l'Assemblée nationale, sur la page de la loi immigration, on a accès aux commissions et aux comptes rendus, mais pas ceux de la loi immigration, je capte pas. Bah si, c'est juste que la seule chose à capter, c'est qu'il n'y a que les commissions qui ont travaillé dessus, puisque la loi n'a pas encore été examinée en séance publique. Donc si tu veux savoir où en est la loi immigration, elle est au stade des commissions. Donc regarde les rapports des commissions. Tu auras le rapport de la séance publique quand la loi sera passée en séance publique. Ce sera une copie des PMQ anglaises. Prime Minister Questions. On verra. On n'a aucun rapport de commission. Bah c'est parce que les commissions sont en train de bosser, qu'elles n'ont pas encore rendu leur rapport. Il faut vraiment arrêter avec les cours d'exception. Est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de la Cour de justice de la République? Si vous êtes pour, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron. Si vous êtes contre, vous êtes en désaccord avec Emmanuel Macron. Hop. Non, en même temps, c'est un piège parce qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui est pour la suppression de la Cour de justice de la République. À peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut supprimer la Cour de justice de la République. Elle n'a pas réussi à remplir les objectifs qui lui étaient fixés. Et que donc elle est encore décevante. C'est quoi les propositions à la place de la CJR? Je sais pas. Je sais pas. Juger les ministres par des formations de tribunal normal, comme les autres citoyens, avec le risque du coup d'avoir une pression mise par le pouvoir judiciaire sur le pouvoir exécutif. J'en sais rien. Je sais pas, je me souviens plus ce qui était proposé en 2018. Ça remonte à il y a tellement longtemps. Hop, la séance est en train de commencer. La présidente s'est installée au perchoir.
Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Tematay Le Gaïc pour le groupe GDR.
Tematay Le Gaïc pour le groupe communiste, député de Polynésie.
Madame la présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Yaourana. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Depuis plusieurs mois et encore cette semaine, vous avez reçu les maires des Hinoa Enana, des îles Marquises. Ils souhaitent la création d'une communauté d'archipel des îles Marquises, espérant des compétences élargies et surtout des financements plus importants. Dans certaines interventions, il est même question de créer une autre collectivité polynésienne qui, pour nous, est synonyme de partition de la Polynésie. Monsieur le ministre, des Hinua Enana Tuapé, de Mongareva Tuamotu, des Rarumatae ou Niamatae, nous sommes un seul peuple et un seul pays. Une partition serait un désastre culturel et social et un non-sens face à l'histoire. Comme en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, la Polynésie est engagée dans un processus de décolonisation et d'émancipation. Notre pays doit rester uni et la France n'a plus à décider des frontières d'autres pays à l'autre bout du globe. Nous demandons la position officielle du gouvernement sur ce sujet. Nous entendons et comprenons l'appel des archipels polynésiens. La nouvelle majorité indépendantiste dont est issu le président Moïtaï Broderson est favorable à une évolution statutaire pour plus de décentralisation vers les archipels. Également, l'application indifférenciée du Code général des collectivités territoriales, inadaptée à nos réalités, doit nous inquiéter. Nous souhaitons, Monsieur le ministre, revenir à un code des communes.
Tematai Le Gaïc, il a 23 ans, il est député de Polynésie française, c'est le plus jeune député de l'histoire. Il est étudiant à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et il pose une question à l'occasion d'un risque de partition des îles polynésiennes.
L'ouverture d'un dialogue sur la réécriture du code des communes polynésiens. Maruru Maïtai.
Il a effectivement 23 ans.
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer.
On va faire un swap.
Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs.
Bougez pas, ça arrive.
Le 20 octobre dernier, en présence de la Première Ministre, autour du Président de la République, avec l'ensemble des parlementaires des territoires ultramarins, avec l'ensemble des présidents de collectivités,
Philippe Vigier, donc.
D'association des maires. Le Président a dit une chose très simple, il n'y a pas de tabou sur les évolutions institutionnelles. Mais ne comptez pas ni sur la Première Ministre, sur le Président, ni sur les ministres pour écrire à votre place l'avenir de ces territoires. Ça veut dire quoi? Il y a deux personnalités qualifiées qui vont être choisies dans les prochains jours par le président de la République qui rencontreront tous les acteurs. Et on verra quelle est la demande, quelles sont les demandes des uns et des autres pour des évolutions institutionnelles. Parce que je rappelle, comme vous êtes parlementaire, que si un jour il y a une évolution institutionnelle, à un moment ou à un autre, il faudra simplement une réunion du Congrès à Versailles. Donc il faut d'abord, un, qu'il y ait un accord local, deux, qu'on ait la capacité demain à porter une réforme dans laquelle on se retrouve, moi les parlementaires se retrouvent largement à une majorité de 3/5. Et sachez bien que notre volonté, ce n'est pas de démanteler les territoires de la République. C'est d'apporter plus de souplesse, plus de compétitivité, plus d'attractivité, bref, de simplifier les relations entre l'État et les collectivités. Je profite de cette question pour vous dire aussi que la Polynésie n'est pas oubliée. Je vous rappelle qu'il y a un statut de fonctionnaire qui a été enfin donné aux agents polynésiens et Sébastien Lecornu qui est là le sait parce qu'il a été en charge de ce ministère avant moi. Je rappelle qu'il y a des dotations par habitant au moment où c'est la semaine du Congrès des maires. Et vous savez très bien que la Polynésie n'est pas du tout oubliée puisque la dotation par habitant au-dessus de la DGF est 30% au-dessus des communes de l'Hexagone. Comptez sur nous pour toujours aider la Polynésie.
Félix Vigier, donc, merci qui beaucoup, refuse ministre, de dire qu'il démantèle quoi que ce soit.
Monsieur le ministre, ce n'était pas la question. La question, c'était sur le code des communes polynésiens, plutôt que la CGCT. Et sur les Marquises, il faut être clair. On ne veut pas avoir des Comores et Mayotte. On veut que la Polynésie, quel que soit le choix, indépendante ou pas, elle reste unie parce que le peuple maori, il est uni.
La crainte de Tematai Le Gaïc, c'est que les îles Marquises, qui sont situées à 1500 km au nord-est de Tahiti, soient séparées de la Polynésie française.
Madame la Première ministre, mesdames et messieurs,
Johnny Hajar,
chers collègues, dans un contexte de vie chère exacerbée en Outre-mer, après un énième 49-3, vous avez fait le choix unilatéral de ne pas retenir parmi les mesures adoptées par l'Assemblée sur le budget 2024 mon amendement repris par la Commission des finances de 500 millions d'euros sur la continuité territoriale outre-mer visant à faire baisser les prix des billets d'avion. Vous avez par contre choisi de retenir la mesure 55, non débattue, dans laquelle l'État incite, je cite, les personnes résidant en France métropolitaine à s'installer dans ces territoires d'outre-mer grâce à l'argent public. D'autre part, le modèle de transport public corse, avec l'hexagone pour les passagers et les marchandises, est un modèle d'égalité et d'équité, quand les insulaires des Outre-mer sont captifs du seul moyen de mobilité extérieure que représente l'avion et condamnés à utiliser un transport privé à des tarifs insupportables. Vous refusez ainsi aux dits ultramarins l'égalité des droits inscrits dans la Constitution et le droit légitime à la mobilité durable à l'intérieur de la République française. Enfin,
Johnny Hajar, il est député de Martinique, il a 50 ans, il est professeur de maths au collège et il pose une question sur ce qu'on appelle la continuité territoriale qui passe notamment par des subventions aux moyens de transport pour se rendre dans les territoires d'outre-mer et notamment les billets d'avion.
Dans un silence assourdissant de l'État, Il produit également un mal développement qui se traduit notamment par d'extrêmes dépendances, des inégalités, des injustices profondes et des crises socio-économiques récurrentes. Les conséquences sont graves car elles génèrent une colère collective et un fort rejet de l'État jusqu'à nourrir la violence, le risque de chaos et l'avènement d'une nouvelle crise majeure tout en faisant le lit des extrémismes. Face à ces ruptures d'égalité profondes, à la dégradation continue des niveaux de vie porteuses d'un désastre annoncé, acceptez-vous de revoir votre position ? Confirmez-vous devant la
représentation nationale ? Johnny Hajjar, qui est très en colère visiblement que le gouvernement n'ait pas repris un de ses amendements dans le cadre du budget 2024, un amendement qui prévoyait de subventionner les billets d'avion pour faire le lien avec les collectivités locales d'outre-mer.
Êtes-vous prêt, entre autres, à faire voter la loi qui garantit aux outre-mer le même modèle de continuité territoriale que celui accordé à la Corse ? Dans le respect de la dignité humaine, il s'agit d'ouvrir des perspectives de progrès et de donner des réponses à la hauteur des enjeux.
Merci. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer.
À nouveau Philippe Vigier, donc, qui va lui répondre sur la continuité territoriale. Que fait le gouvernement ?
Monsieur le député Hajjar, je connais votre attachement, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, du sujet de la continuité territoriale. Pour tous les parlementaires qui sont là, c'est comment on aide financièrement, en payant une grande partie des billets d'avion, à faire en sorte que celles et ceux qui sont dans l'Hexagone puissent rentrer dans les meilleures conditions dans les territoires ultramarins. Je vous rappelle que pour le budget 2024, cette aide à la continuité territoriale passe de 70 millions à 93 millions d'euros. Alors vous auriez voulu, j'entends votre message, qu'on puisse aller encore plus loin et l'augmenter de 60 millions d'euros. Je regarde le rapporteur général du budget et tous les parlementaires qui sont là, je crois que c'est une aide majeure que nous faisons pour 2024, mais une aide importante et indispensable. Il faut dire aussi, monsieur le député, et vous le savez très bien, que les étudiants de première année, qu'ils soient boursiers ou qu'ils ne le soient pas, auront dès Noël, dans un mois, la possibilité de bénéficier de cette continuité territoriale. Il faut dire aussi que nous avons relevé le quotient familial de 12 000 à 18 000 euros. Ça veut dire que 77%, je dis bien, 77% des ultramarins pourront bénéficier de ce dispositif. Et nous le faisons dans un contexte financier, la Première ministre l'a bien voulu, que dans le cadre du 49.3, il y ait des possibilités nouvelles offertes aux Outre-mer. Nous renforçons significativement ce qu'on appelle le FEI, le Fonds exceptionnel d'investissement, qui de 110 millions passera à 160 millions d'euros. Et nous renforçons l'expertise pour aider les collectivités de 10 à 20 millions d'euros. Donc, voyez, nous sommes au rendez-vous pour les Outre-mer.
Voilà, Philippe Vigier qui a donné toute une série de chiffres pour contredire l'idée selon laquelle le gouvernement désinvestirait les Outre-mer.
Je vous dirais juste une chose. Si vous tenez compte uniquement de la territoriale, il faut aussi tenir compte des défiscalisations qui existent. Et là, elles sont nombreuses. Et si on fait un équilibre total, vous verrez que les Outre-mer ne sont pas oubliés. Je vous en ferai la démonstration quand vous le voudrez, monsieur le député.
Voilà, c'est Philippe Vigier, le ministre des Outre-mer.
Ministre. La parole est à madame la présidente Parmentier-Lecoq pour le groupe Renaissance.
Présidente de la commission des affaires sociales.
Ma question s'adresse à madame la première ministre. Madame la première ministre, en 2040... près d'un Français sur trois sera âgé de plus de 60 ans. D'ici une dizaine d'années, une forte progression du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus est attendue. Et face au vieillissement de la population et à la perte d'autonomie qui préoccupe fortement nos concitoyens, le gouvernement, notre majorité et tous les bancs de cette Assemblée sont mobilisés. En 2020, nous avons créé la cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, les recettes de la CNSA sont en augmentation de 2,5 milliards et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévoit 15 milliards d'euros pour les personnes âgées. Le projet de loi de finances prévoit également la création de places et de recrutement professionnel dans les EHPAD, d'investissement dans les EHPAD et dans les résidences autonomie. Jamais aucune majorité n'aura mis autant de moyens sur l'autonomie. Cette semaine à l'Assemblée nationale, nous examinons la proposition de loi pour bâtir la société du bien vieillir qui apporte une nouvelle brique pour améliorer le quotidien des personnes âgées et des professionnels.
Charlotte Parmentier-Lecoq, elle a 46 ans, elle est députée du Nord, elle est consultante, ancienne gérante d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des petites et des moyennes entreprises. Et elle est présidente de la commission des affaires sociales. Elle pose une question sur l'adaptation de la société au vieillissement. Elle l'a rappelé, en 2040, un Français sur trois aura plus de 60 ans.
Je suscite cette annonce. Aussi, pouvez-vous nous confirmer ici votre engagement pour l'année 2024 et détailler votre stratégie interministérielle. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Quelle est la stratégie du gouvernement pour accompagner l'autonomie des personnes âgées ? On écoute la Première ministre Elisabeth Borne qui répond.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Charlotte Parmentier-Lecocq. La question du bien vieillir nous concerne collectivement et elle doit nous rassembler. C'est un sujet qui touche chacun d'entre nous, pour ses grands-parents, pour ses parents, pour soi-même, pour tous ceux qui ont besoin d'aide dans leur vie de tous les jours, pour les nombreuses familles qui ont un parent en EHPAD. C'est un enjeu dès aujourd'hui, et cela sera encore plus demain, car avec l'augmentation de l'espérance de vie, la question de l'autonomie et du grand âge sera l'un des défis majeurs de notre société. Depuis 2017, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, beaucoup a été fait. En pleine crise sanitaire, nous avons notamment créé la 5e branche de la Sécurité sociale, la branche autonomie. C'était une réforme attendue depuis de longues années. Nous lui avons donné des moyens inédits que nous augmenterons de 10 milliards d'euros sur le quinquennat. Avec la proposition de loi sur le bien vieillir que vous examinez actuellement, nous allons franchir une nouvelle étape. Concrètement, ce sont des avancées importantes pour la prévention de la perte d'autonomie, pour lutter contre les maltraitances.
Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans le chat qui ont un membre de leur famille qui est en perte d'autonomie.
Ou encore pour une meilleure reconnaissance des aides à domicile. Et je tiens à saluer, Madame la Présidente, votre travail, ainsi que celui des deux rapporteurs du texte, Annie Vidal et Laurence Christol.
C'est un sujet majeur, hein, effectivement, la perte d'autonomie et l'accompagnement de l'autonomie. Donc je rappelle effectivement qu'en 2015,
la majorité
a voté la création d'une 5e branche de la sécurité sociale, justement la question de l'autonomie, avec un challenge, c'est de réussir à financer la dépendance. Donc là, Elisabeth Borne, elle vient de rappeler qu'il y aura 10 milliards d'euros en plus qui vont être mis à l'horizon du quinquennat.
Comment disposer des compétences et des personnels nécessaires ? Comment améliorer la gouvernance sur ce sujet majeur ? De nombreux parlementaires ont porté l'idée d'une loi de programmation sur le grand âge. Comme je l'ai annoncé hier, en marge de mon déplacement à Strasbourg, cette loi de programmation, nous la ferons. J'ai demandé à la ministre des Solidarités, Aurore Berger, d'engager des concertations avec les parlementaires de tous les groupes, avec les conseils départementaux et avec les professionnels du secteur.
Okay.
Nous voulons nous doter ensemble d'une vision partagée des besoins, des financements et des responsabilités. Nous avancerons dans l'esprit constructif et transpartisan qui a prévalu jusqu'à présent sur ce sujet. Et je souhaite qu'un texte puisse être présenté d'ici l'été pour un examen et une adoption au second semestre 2024.
Donc le vote de la loi sur le bien vieillir est prévu pour le deuxième semestre de l'année prochaine.
L'autonomie et le grand âge sont des enjeux centraux pour l'avenir de notre société. Cette loi de programmation nous permettra d'y répondre ensemble. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Première ministre. La parole est à Madame Pascale Martin pour le groupe La France Insoumise.
Alors, on continue avec Pascale Martin, députée de Dordogne.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre en charge du logement, dans 3 jours aura lieu la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Je voudrais commencer par rappeler que cette date a été choisie en commémoration d'un assassinat politique, celui des 3 sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa, tuées le 25 novembre 1960 en République dominicaine en raison de leur combat contre la dictature. 63 ans plus tard, la violence politique continue de s'abattre sur les femmes qui osent résister à l'oppression, comme c'est le cas en Iran. À ces violences politiques et aux guerres dont les premières victimes sont souvent les femmes, viennent s'ajouter les violences sexistes ordinaires. Ces violences-là, les femmes de France n'y échappent pas. L'accès à l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences devient critique. Depuis cet été, beaucoup d'entre elles sont laissées sans aucune solution d'hébergement. Le manque structurel de places est aggravé par des consignes préfectorales qui imposent au 115 un tri drastique. Monsieur le ministre, vous comprenez que ces femmes sont en danger si on les force à cohabiter avec leur agresseur. Vous le comprenez ? À côté de ça, un nombre croissant de femmes enceintes ou de mères avec des jeunes enfants, parfois des bébés, se retrouvent à la rue. La majorité d'entre elles sont des femmes étrangères qui ont subi des violences graves sur leur parcours migratoire. Leur grossesse est souvent la conséquence d'un viol. En restant à la rue, elles sont à très haut risque de subir de nouvelles violences, et je ne parle pas des risques pour leurs enfants. Heureusement, les parlementaires sont mobilisés avec les associations féministes. Mais le problème ne pourra être résolu que si l'État joue correctement son rôle. Monsieur le ministre, quand le gouvernement va-t-il s'attaquer réellement au problème ?
Pascal Martin, elle a 62 ans, elle est députée de Dordogne du côté de Périgueux. C'est une ancienne salariée de la régie autonome des transports parisiens, la RATP. Et elle pose une question sur l'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes.
La femme n'est pas assurée.
À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence envers les femmes,
Couillard, ministre en charge de l'égalité entre...
elle avait produit un rapport en 2023 sur la santé mentale des femmes. Alors, on en est où ? Bérangère Couillard qui lui répond.
Madame la députée Martin, vous abordez plusieurs sujets dans votre question. Vous avez commencé par parler de la journée consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et notamment, vous interpellez le gouvernement sur le travail que nous menons depuis maintenant 2017. Vous dire bien sûr que c'est une priorité et que nous agissons particulièrement pour lutter contre les violences faites aux femmes et particulièrement sur les violences conjugales. Vous savez... nous avons travaillé notamment à la mise en place d'un certain nombre de dispositifs. Vous citez l'hébergement d'urgence. Nous avons doublé le nombre de places d'hébergement d'urgence depuis 2017. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, il y en avait 5 000 seulement. Nous sommes à plus de 10 000 disponibles. Donc pour
il y a 10 000 places d'hébergement disponibles pour l'hébergement d'urgence.
Lorsqu'il y a une demande faite au 115, les femmes victimes de violences conjugales, les femmes victimes du système prostitutionnel sont prioritaires dans les attributions de ces logements. Il y a le sujet de la quantité de logements, il y a aussi le sujet de la qualité des logements. Et moi, je vais demander en début d'année prochaine un état des lieux sur ce qui est justement l'état de nos logements pour savoir si les femmes et les enfants sont hébergés dans des conditions dignes. C'est un travail que nous avons déjà engagé avec le ministre du Logement et je tiens à vous rassurer sur cette question. Vous savez, en moyenne, une femme, il lui faut en moyenne 7 allers-retours avant qu'elle puisse partir définitivement du domicile. Il y a bien sûr l'emprise effectuée par le mari violent ou le conjoint violent, mais aussi ce sont des contraintes administratives, des contraintes financières qui sont exercées. Et c'est pourquoi nous lançons le PAC Nouveau Départ cette année dans 5 départements et nous déployons également l'aide universelle d'urgence, une aide de 243 euros à plus de 1500 euros en fonction des conditions évidemment de cette personne pour pouvoir l'aider au départ.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Thierry pour le groupe écologiste.
Alors, le groupe écolo, Nicolas Thierry.
Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Lundi a été publiée une étude de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Elle révèle une contamination généralisée des œufs et des sols à plusieurs polluants organiques persistants. 410 communes de l'agglomération parisienne sont concernées. En Seine-et-Marne, dans les Yvelines, dans l'Essonne, dans le Val-d'Oise, les taux de polluants sont jusqu'à 10 fois supérieurs au seuil de dangerosité. Pas moins de 90% des œufs analysés sont non conformes aux valeurs seuil.
Ah.
Pour rappel, l'exposition à ces polluants organiques persistants, y compris au cours du développement fœtal, peuvent avoir de nombreux effets sur la santé à long terme. Augmentation des risques de cancer, troubles de la fertilité, perturbation du système endocrinien ou troubles du métabolisme. Cette alerte en région parisienne est la dernière d'une liste qui s'allonge et concerne une part croissante de nos territoires. Il y a quelques mois, la préfecture de la Haute-Savoie interdisait la consommation des poissons pêchés à proximité de la commune de Rumilly en raison de la contamination à une famille de polluants organiques persistants, les PFAS. Peu avant, la préfecture du Rhône appelait elle aussi à ne pas consommer les œufs pondus dans la région lyonnaise pour les mêmes raisons. Les conclusions de ces études sont convergentes. La contamination des sols et des aliments par les polluants organiques persistants semble généralisée. Cette succession de scandales sanitaires qui tombent au compte-gouttes sème le doute. Comment ne pas y voir une préoccupation de santé publique majeure qui concerne l'ensemble du territoire ? La représentation nationale, de même que nos concitoyens, doivent disposer d'une information suffisante, claire et transparente sur les risques sanitaires qui pèsent potentiellement sur eux.
Nicolas Thierry, il a 47 ans, il est député de Gironde. Je vous rappelle que les écolos ont remporté la mairie de Bordeaux. Il est enseignant vacataire à Sciences Po Bordeaux. C'est un ancien conseiller politique de Cécile Duflot. Il est désormais député. Il pose une question sur la contamination des sols dans l'agglomération parisienne et les effets sur la santé à long terme de ces pollutions. On écoute la réponse du gouvernement.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Thierry. Tout d'abord, je vous sais très mobilisé sur ce sujet essentiel et salue l'amendement que vous avez porté en PLF pour augmenter de 10 millions d'euros le budget alloué à la prévention des risques liés au PFAS. Mieux prendre en compte les effets liés aux polluants éternels ou PFAS constitue une urgence environnementale et sanitaire, et la liste des exemples que vous venez de citer en est la preuve, sur laquelle le gouvernement est en interministériel pleinement mobilisé. D'abord, dans l'objet de la surveillance, dans le contrôle sanitaire de la qualité des eaux réalisé par les ARS sur la base des recommandations de l'ANSES. Mais aussi, nous avons renforcé cette surveillance en allant au-devant des directives européennes qui doivent s'appliquer en 2026, en allongeant la liste des nouvelles molécules PFAS qui sont contrôlées. En Nouvelle-Aquitaine, l'ARS a lancé, dans le cadre de son plan régional de santé et environnement, une étude pilotée qui permet d'aller au-delà sur le contrôle de l'eau potable. En curatif, pour éliminer ce qui est déjà là, avec la mise en place du plan d'action 2023-2027 sur les PFAS, avec un travail en cours de cartographie des rejets sur l'ensemble du territoire et une démarche de réduction des rejets. Bien sûr, les résultats vous seront communiqués. Depuis l'arrêté de juin 2023, les industriels relevant de certaines activités ont l'obligation de réaliser, sous 3 mois, une campagne de mesure de leurs rejets dans l'eau. Enfin, en préventif, avec la mise en œuvre en interministériel du plan eau, qui prévoit notamment de renforcer la protection des captages, et par la mise en œuvre de la nouvelle stratégie éco-phyto. Sur les enjeux de la santé des enfants en lien avec la prévention, c'est un sujet essentiel de biosurveillance et c'est tout l'objet des études que nous menons avec Santé publique France. Des parlementaires, dans le cadre du GSE, piloté par Anne-Cécile Violand, une mission interministérielle confiée sous l'autorité de la Première ministre à Cyril-Elisabeth Sibyl sont en cours. Je vous propose de vous associer à ces travaux si vous le souhaitez. Je vous remercie.
Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas.
Nicolas Turquois.
Excusez-moi. Allez-y.
Ah non, pas encore.
Merci,
ah non,
Madame la Ministre. Vous n'avez néanmoins pas répondu à ma question. Ma question était simple. Est-ce que vous allez généraliser le même type d'études menées en Île-de-France dans tous les bassins de vie de notre pays? C'était ça ma question.
Merci.
Je vais me faire chercher un café, je reviens.
La parole est à Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate.
Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Madame la Première Ministre, je pense qu'en ce moment, nombre de nos compatriotes se sentent autant israéliens que palestiniens et nous sommes collectivement meurtris de la situation au Proche-Orient. Le Hamas et ses atrocités du 7 octobre ont plongé ces deux peuples dans un abîme sans fond. Il devra en payer le prix. Le peuple palestinien n'est pas le Hamas. Il est la victime collatérale de cette organisation terroriste. Mais aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de femmes, d'hommes et surtout d'enfants qui sont privés de toit, d'électricité, de nourriture, d'eau, de soins et qui n'ont aucune possibilité de s'enfuir. Les accords de cette nuit constituent le premier pas depuis 46 jours vers une accalmie du conflit. En échange d'une libération encore trop partielle de 50 otages par le Hamas, l'État d'Israël accepterait de cesser pour 5 jours ses opérations. Cet accord doit aussi, et c'est un point important, permettre d'intensifier l'aide humanitaire aux civils palestiniens. Madame la Première Ministre, pouvez-vous d'abord nous faire un point sur la question des otages? Peut-on considérer que cet accord pourrait être un premier acte sur la voie du cessez-le-feu? D'autre part, comment la France peut-elle agir pour venir en aide aux populations civiles en danger et avec quels moyens opérationnels? Enfin, quelles actions diplomatiques d'envergure peuvent être menées? Le conflit israélo-palestinien n'a que trop duré. Comme l'a très bien dit mon collègue Bourlange, président Bourlange l'autre jour, il nous faut affirmer encore plus haut et encore plus fort la nécessité d'une solution à 2 États où chacun devra reconnaître les besoins légitimes de l'autre. Je vous remercie.
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État en charge du développement de la francophonie et des partenariats internationaux.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Turquois, dès les attaques terroristes du Hamas, nous avons fait une priorité la libération des otages. Aujourd'hui, c'est un jour d'espoir, car un accord, comme vous avez dit, a été trouvé hier pour la libération des 50 otages. La France est pleinement mobilisée pour ces libérations. Le président de la République, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministre des Armées se sont rendus dans la région pour réaliser cet objectif. Et je souhaite ici remercier tous les États qui ont participé à l'élaboration de cet accord. Le Qatar, l'Israël, bien sûr, l'Égypte et les États-Unis. Pour en venir aussi à votre question sur l'aide humanitaire de la France à Gaza. Vous savez que nous avons considérablement renforcé notre aide et que nous mobilisons tous les moyens possibles pour soutenir la population de Gaza. Au total, la France a acheminé plus de 110 tonnes d'aide humanitaire vers l'Égypte. Et la France contribue à l'aide humanitaire européenne par deux vols prochains, le 23 et le 30 novembre. Sur l'aide médicale spécifiquement, notre aide permettra de soigner jusqu'à 1000 blessés graves. Nous avons envoyé deux postes sanitaires mobiles, nous avons engagé les porte-hélicoptères d'Ixmund qui se rendent en Égypte et nos établissements ici hospitaliers sont prêts à accueillir jusqu'à 50 patients en provenance de Gaza, en particulier les enfants blessés ou malades qui ont besoin de soins urgents. La trêve humanitaire qui commence permettra d'avancer sur ces actions.
Donc il y a une trêve humanitaire qui a été décidée à Gaza, c'est l'information que donne le gouvernement.
Nous continuons par ailleurs à œuvrer en cessez le feu comme l'a demandé le président de la République. Voilà pour conclure ces piliers.
Merci beaucoup. Madame la ministre.
Nicolas Turquois qui a posé la question, c'est l'ancien rapporteur général de la réforme des retraites de 2018.
Merci. Merci Madame la Présidente.
Max Mathiasin.
Chers collègues, Monsieur le ministre, j'associe à ma question l'ensemble des députés ultramarins et également ceux de nos collègues qui ont compris le sens de notre combat pour le retrait de l'article 55 du budget. Article qui a soulevé, je veux dire, la colère dans nos territoires. Les députés ultramarins mobilisés contre cet article ont été reçus ce matin à leur demande par M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Nous lui avons expliqué les effets pervers de cet article qui prévoit une aide à l'installation professionnelle pour tous les actifs, quelle que soit leur origine, territoire ultramarin ou pas. Nous lui avons rappelé que c'est le gouvernement et lui seul qui avait maintenu cet article en dépit de notre opposition unanime. Nous lui avons demandé le retrait de cet article et il l'a fait. Il nous a entendus, nous lui en remercions. Il s'agit pour nous de reprendre les mesures proposées dans l'article initial, dans la proposition de loi 1159.
Max Mathiasin qui est en train de parler, c'est un député de Guadeloupe, il a 67 ans, il a été au PS, il a été au Modem et aujourd'hui il est sans étiquette, il est député de Guadeloupe donc, ancien directeur de la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. Il pose une question sur un article dans le projet de loi de finances de 2024 qui prévoit d'apporter une aide à l'installation outre-mer, donc des personnes vivant en métropole qui vont s'installer professionnellement en outre-mer pourront bénéficier d'une aide.
Si une telle réécriture n'était pas possible, nous demanderons le maintien du retrait. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous tenir compte de ce que je viens de vous dire dans le cadre de la navette parlementaire pour tenir compte des exigences de nos populations ?
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer.
Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les députés, Monsieur le député Max Mathiasin. Vous posez une question importante, c'est celle du déclin démographique que l'on constate par exemple en Martinique et en Guadeloupe et qui avait été constaté par chacun. Je rappelle juste un chiffre, un jeune sur deux entre 2011 et 2021 est parti mais n'est pas revenu dans son pays d'origine en Martinique ou en Guadeloupe. Face à cela, il y a eu un article de la loi de finances, s'appelle le fameux article 55. Ce qu'est l'article 55 prévoit quoi ? Il prévoit des aides à l'incitation pour faire en sorte que l'on puisse organiser le retour naturellement vers ces territoires ultramarins. Cet article, disons-le, est sans détour, n'est pas compris, il n'est pas accepté et il suscite beaucoup d'émotions.
ce matin et à l'initiative de la Première ministre, avec Gérald Darmanin, nous avons reçu, vous le savez, vous étiez présent, l'ensemble des parlementaires qui nous ont interrogés sur cette question. D'ores et déjà, je suis en mesure de vous dire que nous allons retirer l'article 55 et nous avons convenu ensemble, je le dis devant la représentation nationale et devant le président de la délégation qui est là, David Riemann, qu'une proposition de rédaction commune sera faite dans le cadre d'une co-construction entre les parlementaires et entre le gouvernement de manière à vous apporter satisfaction. Et on tiendra compte de quelque
chose. Donc le gouvernement donne raison aux députés d'outre-mer.
Dans sa proposition.
Il y aura une réécriture de l'article 55.
On appelle du CIMM des centres d'intérêt matériels et moraux, de manière à ce que l'on puisse donner une priorisation aux ultramarins pour qu'ils puissent retourner au pays. Et dernier mot, puisque nous terminons la loi de finances, je vous rappelle que dans le cadre du budget, c'est 2 millions d'euros en plus pour le dispositif cadre d'avenir qui permettra justement à des jeunes formés dans l'Hexagone de retourner exercer toutes leurs compétences dans les territoires.
Il y aura un dispositif en plus pour les jeunes qui ont fini leurs études en Hexagone qui puissent retourner vivre outre-mer. Donc, il y a la confirmation par le gouvernement qu'il y aura bien
pour le groupe Les Républicains
la bonne rédaction pour cet article. On continue avec Vincent Roland pour Les Républicains.
Madame la Première ministre, après les Hauts-de-France, des crues torrentielles ont frappé le département de la Savoie dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Permettez-moi de remercier l'ensemble des élus locaux, des pompiers, gendarmes, associations de sécurité civile, agents des collectivités et bien sûr tous les bénévoles qui ont prêté main forte aux sinistrés. De nombreuses habitations et infrastructures sont néanmoins endommagées. Au niveau de Notre-Dame-de-Briançon, commune de l'Alechère, la ligne SNCF entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice est coupée, comme dans la vallée voisine de la Maurienne. Une liaison rompue qui a évidemment un impact immédiat sur les usagers du quotidien et qui suscite de vives inquiétudes en ce qui concerne la saison hivernale à venir. Avec 400 000 lits touristiques, dont une partie est desservie par le train, ce sont tous les professionnels de l'économie de la montagne qui s'inquiètent à l'approche de la saison. Je pense également à l'entreprise MSSA, dont l'usage de la ligne est indispensable pour permettre un transport sécurisé du chlore.
Vincent Roland, il a 53 ans, il est député de Savoie, c'est un ancien moniteur de ski et il s'inquiète des crues en Savoie et des infrastructures qui ont été endommagées.
Et l'industrie. Aussi, Madame la Première ministre, pouvez-vous prendre l'engagement que l'état de catastrophe naturelle sera pris dans les plus brefs délais pour les nombreuses familles qui sont dans le désarroi ? Par ailleurs, pouvez-vous aujourd'hui nous annoncer une date de réouverture de cette ligne SNCF dont les enjeux économiques sont considérables ? Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Il y a une inquiétude notamment sur une infrastructure de train, si je comprends bien. Il y a beaucoup de professionnels du tourisme qui dépendent pour leur saison d'hiver du fait que le train fonctionne bien. Et s'il ne fonctionne pas, ça inquiète tout le monde. On écoute Christophe Béchu qui répond, ministre de l'Environnement.
Du 14 au 15 novembre, une crue historique dans la vallée de l'Arve a battu le record du 1er mai 2015. Elle est la plus importante enregistrée depuis qu'on mesure ces crues depuis 1904. On a atteint jusqu'à 1000 mètres cubes par seconde, avec quelque chose qui est directement relié au dérèglement climatique, parce qu'on a à la fois l'intensité extrêmement forte des inondations, mais on a dans le même temps le fait que de l'eau qui aurait pu tomber sous forme de neige à cause de la douceur des températures est venue s'ajouter à des précipitations et a augmenté les dégâts dans cette vallée. Vous avez cité les lignes ferroviaires, je voudrais associer, si vous voulez bien, les maraîchers de Gaillard et les usines plus larges de Maglan. Et dire au passage qu'au milieu de tout ça, je veux prolonger ce que vous venez de dire. Saluer les investissements qui ont été conduits. Les programmes, notamment les PAPI, qui ont été conduits en 2012 et en 2020. Saluer les investissements qui ont été faits par les collectivités locales. Vous m'interrogez sur la reconnaissance de catastrophes naturelles compte tenu de l'ampleur de cette crue. Dans les prochains jours, puisque vous savez que c'est le ministère de l'Intérieur qui à la fois examine les dossiers et qui entraîne cette reconnaissance, va examiner la situation de ces territoires. Vu ce que je viens de dire, en parlant de crues d'ampleur historique, vous avez une petite idée de la manière dont la Commission sera amenée à statuer.
Les papiers, pour ceux qui posent la question, ce sont les programmes d'action de prévention des inondations,
concernés, puisque nous passons par les mairies,
programme d'action de prévention des inondations.
Que cette commission puisse se tenir à Beauvau et nous sommes en train de consolider les hypothèses de réouverture de ces lignes ferroviaires parce que nous avons bien conscience que le calendrier lié à la saison touristique qui commence amène une pression encore plus forte que si les mêmes difficultés avaient eu lieu à un autre moment. Je peux vous assurer de mon attention et celle du ministre de l'Intérieur sur le sujet.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Allez-y, mon cher collègue.
Simplement, monsieur le ministre, je vous parlais de la vallée de la Tarentaise en Savoie et de la vallée en Maurienne et pas de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher collègue.
Il y a eu confusion.
La parole est au monsieur le président Marcangeli pour le groupe Horizon.
Laurent Marcangeli, c'est le président du groupe Horizon. Le groupe Horizon, ce sont les députés proches d'Edouard Philippe.
Le lundi 20 novembre se tenait la journée internationale des droits de l'enfant. Au-delà de cette date symbolique, je sais qu'un large consensus existe sur ces bancs pour protéger les plus jeunes des dangers susceptibles d'entraver le chemin de leur épanouissement. Preuve en a été faite par l'adoption à l'unanimité ici même, ainsi qu'au Sénat, de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne le mercredi 28 juin 2023. Cette proposition de loi, je l'ai portée avec humilité en ayant conscience qu'elle ne pourrait pas tout résoudre. Son objectif est simple. Permettre aux parents de mieux superviser la vie en ligne de leurs enfants alors que les utilisateurs de réseaux sociaux sont de plus en plus jeunes et que des études scientifiques pointent les risques d'une exposition intensive à âge précoce. Chaque jour, les réseaux sociaux sont submergés par des contenus de plus en plus violents, erronés et indécents. C'est une véritable course contre la montre pour préserver la santé mentale de nos enfants qui est engagée. Je prendrai l'exemple de la dernière émission de télé-réalité qui inonde les réseaux sociaux, Frenchy Shore. À la limite de la pornographie, elle verse dans le trash et la vulgarité permanente. Combien de collégiens, combien d'écoliers sont ainsi exposés à tout ou partie de cette émission ? Madame la Première Ministre, je connais votre engagement.
Donc, il y a une proposition de loi qui a été déposée par le groupe Horizon pour créer une majorité numérique pour protéger les enfants contre certains contenus sur Internet.
L'application reste aujourd'hui suspendue à une appréciation de la Commission européenne. Pourtant, le temps presse. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale, quelle est la position du gouvernement sur ce sujet? Je vous remercie.
Laurent Marcangeli, 42 ans, ancien avocat au barreau d'Ajaccio.
Madame la Première Ministre.
Et donc, comme c'est un président de groupe qui pose la question, c'est toujours la Première Ministre en personne qui lui répond. On écoute Elisabeth Borne.
Monsieur le Président Laurent Marcangeli, vous avez raison de le dire, la protection des mineurs dans l'espace numérique est un enjeu majeur. Et je veux saluer, Monsieur le Président Marcangeli, le travail remarquable que vous avez mené grâce notamment à la loi instaurant une majorité numérique. Une loi qui protège nos enfants et interdit la création d'un compte sur un réseau social avant 15 ans sans autorisation des parents. Une loi que le gouvernement a soutenue et qui a été adoptée à la quasi-unanimité dans cette Assemblée comme au Sénat. Monsieur le Président Marcangeli, face au défi de la régulation numérique,
qu'est-ce que vous en pensez de cette règle
avec l'Union européenne,
interdire de créer un compte sur un réseau social avant 15 ans sans l'autorisation de ses parents. Donc avec autorisation, ce serait possible, mais sans autorisation,
c'est
impossible.
C'est un enjeu que nous avons porté lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et nous avons réussi, après 20 ans de tentatives infructueuses, avec le règlement DSA, nous sommes parvenus à imposer aux géants du numérique une régulation européenne conforme à notre vision et à nos valeurs.
Le DSA, c'est le Digital Service Act, c'est le paquet législatif européen sur les services numériques.
Tout ce qui est interdit hors ligne doit l'être également en ligne. Le DSA nous donne les moyens d'agir face aux grands acteurs du numérique qui ne pourront plus jouer sur la diversité de nos normes. Et avec le ministre Jean-Noël Barrot, mon gouvernement a porté devant le Parlement un projet de loi qui assure la mise en œuvre de ce règlement, mais qui permet aussi de prendre de nouvelles mesures, notamment pour protéger les enfants. Je pense à la protection des mineurs face à la pornographie, à la lutte contre le cyberharcèlement ou à l'instauration d'une peine de bannissement des réseaux sociaux. Monsieur le Président Marcangeli, dans le cadre du droit européen, nous pouvons naturellement agir et légiférer. Et je pense en particulier à cette question de la majorité numérique. Notre action au niveau de l'Union européenne et nationale se complète. Nous pouvons et nous devons les coordonner parfaitement. C'est pourquoi nous travaillons en ce moment même avec la Commission européenne pour articuler votre loi avec les travaux européens et permettre son entrée en vigueur dans les meilleurs délais. Je vous remercie.
Madame la Première Ministre, Monsieur le Président.
Ok. Intéressant la réponse.
Madame la Première ministre, qui est très claire, j'insiste véritablement sur cet enjeu. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux est gravissime. Vous avez des ingérences étrangères, vous avez des violences inacceptables. Je crois qu'on est devant un enjeu de civilisation. Nous devons apporter une réponse particulièrement forte.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Donc le groupe Horizon est mobilisé sur la question de la régulation des réseaux sociaux. Sujet sur lequel l'Union européenne et la France sont en train de s'engueuler d'ailleurs.
La question s'adresse au ministre de l'Agriculture.
Grégoire de Fournas pour le RN.
Ces derniers jours, de nombreux villages de France ont vu leurs panneaux retournés par des agriculteurs manifestant leur colère de votre écologie punitive imposée par la stratégie bruxelloise dite de la ferme à la fourchette, elle-même inspirée par la pire philosophie décroissante de l'extrême gauche.
Ah.
On marche sur la tête. C'est le mot d'ordre que
le gouvernement d'extrême gauche qui a une politique agricole.
En effet,
agricole.
Quand vous laissez notre agriculture en concurrence déloyale avec la terre entière et qu'en même temps vous plombez une nouvelle fois la compétitivité des exploitations en augmentant les taxes sur le GNR, les produits phytosanitaires ou sur l'eau, on peut le dire, on marche sur la tête. Alors que les trois lois Egalim et les clauses miroirs sont un échec à garantir des prix rémunérateurs et que chaque jour la situation de nos agriculteurs s'aggrave, des décisions urgentes doivent être prises, mais vous donnez vous aussi l'impression de gagner du temps par un enfumage permanent qui, je vous le dis, masque mal votre inaction. Les agriculteurs n'en peuvent plus des bavardages et de ces milliers d'heures de concertation pour préparer une loi d'orientation agricole maintes fois repoussée et qui s'annonce déjà comme dérisoire face aux grands enjeux de l'agriculture française. Monsieur le ministre, les agriculteurs ont compris qu'ils n'ont plus rien à attendre de cette majorité pour redresser notre agriculture. Mais face à leur détresse, pouvez-vous au moins aujourd'hui nous annoncer que vous renoncez à cette augmentation des taxes sur le GNR, sur l'eau et les RPD, décision injuste et insurmontable compte tenu de la situation dramatique des exploitations agricoles.
Grégoire de Fournas, il a 38 ans, il est député de Gironde, il est viticulteur. Il gère un domaine de vin au château du Vieux-Cassan, à Saint-Germain-d'Esteuil. On écoute la réponse de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture.
On va évidemment dire tout, parfois ça confine un peu au n'importe quoi sur les sujets agricoles, pardon de vous le dire comme ça. D'abord parce qu'on a un cap, le cap c'est celui qu'on a tracé dès 2017 au travers de la rémunération. Je ne connais pas un agriculteur, vous leur demanderez vous-même, qui voudrait qu'on revienne sur les lois qui ont été faites sur Egalim. Egalim 1, Egalim 2 est la troisième faite par le député Descrozaille et son groupe. Et qu'il y a, personne n'avait travaillé sur cette question de la rémunération. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on progresse encore, mais je ne connais pas un agriculteur qui vous dirait pas que ceux qui sont rentrés dans Egalim n'ont pas pu voir leurs revenus progresser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Ça c'est un cap. Le cap de la rémunération c'est un cap important. Le deuxième cap qu'on a donné, c'est le cap de la souveraineté de la transition. Il y a ceux qui, comme vous, en tout cas de ce que j'entends, disent qu'il ne faut rien changer. La meilleure façon de faire disparaître l'agriculture, c'est de ne pas l'adapter et de ne pas lui permettre de faire face à la grande transition qui est liée notamment au dérèglement climatique. Les berces de production, et vous le vivez vous-même dans le vignoble bordelais, c'est en partie lié à la question du dérèglement climatique. Donc on a besoin d'adapter. Pour ça, on a besoin d'objets qui sont ceux de la planification. Et c'est là-dessus qu'on travaille, pour mettre en cohérence nos objectifs, nos moyens et les objectifs qui sont de nature diverse. Troisième élément, pour être crédible, il faut mettre des moyens. Pardon, vous ne l'avez pas voté. En tout cas, vous ne vous apprêtiez pas à le faire. La question des moyens sur l'agriculture, plus 1,3 milliard d'euros. Jamais il y a eu des crédits qui avaient augmenté dans cette mesure-là pour la décarbonation, pour l'accompagnement sur les phytos, pour faire face aux grandes transitions. Ça, c'est des faits concrets, pardon, excusez-moi de vous le dire, c'est des faits concrets. Puis il y a ce qu'on fait aussi sur le plan eau pour essayer d'accompagner l'agriculture dans sa résilience. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à mener la transition. Et par ailleurs, autant vous dire que sur le pacte et sur la loi, la Première ministre aura l'occasion de s'exprimer prochainement, mais nous serons bien au rendez-vous du dialogue et du travail que nous avons fait avec les agriculteurs.
Marc Fesneau, donc, qui défend l'action du gouvernement en mettant en garde.
Votre politique d'adaptation, c'est une politique de la décroissance et de l'écologie punitive. Je voudrais d'ailleurs me réjouir de l'échec du règlement sûr ce matin au Parlement européen grâce aux députés du Rassemblement national.
Je vous remercie, monsieur.
Une politique agricole d'extrême gauche, donc, décroissante.
Toujours les mêmes mots et toujours aucune solution que vous proposez. Nous, on a des solutions, on essaie d'y travailler. Et pardon de vous dire qu'y compris au niveau européen, nous faisons en sorte que nous trouvions des positions d'équilibre. C'est en tout cas ce à quoi je m'attache.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue et reprendra à 15h sur le
voilà.
Texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relative au partage de la valeur. Je
okay.
vous remercie.
C'est la fin donc de cette séance de questions au gouvernement. Nouvelle formule, nouveau format, le mercredi à midi. Le mercredi à 14h, pardon, excusez-moi. Donc effectivement, ce n'était pas
une séance de questions à la Première ministre, à Elisabeth Borne. Il y a eu des... C'était juste la suite, en fait, de la séance d'hier. Peut-être que c'est que la première semaine où ils le font comme ça. Peut-être que ça va changer les semaines prochaines. En tout cas, voilà pour cette séance relativement courte. Il y a eu 10 questions ont été posées. Ça nous change des séances à 25 questions. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est sympa que ce soit un peu plus court ou ça vous saoule ? C'est une question par groupe. Ouais, c'est une question par groupe. Le mercredi, en l'occurrence, c'est une question par groupe, quelle que soit la taille du groupe, etc. Pas convaincu par le format, les députés européens du RN ne foutent rien, d'accord, rien à voir. Trop court, ça a l'air bien plus calme, c'est mieux, trop court. Ah, vous trouvez ça trop court, 45 minutes ? Ok, d'accord. J'ai pas senti l'impact du Conseil des ministres sur cette séance. Non, j'ai pas senti l'impact non plus. Mais je me souviens, avant qu'on commence la séance, il y avait des gens dans le chat qui disaient « Ouais, mais le risque, c'est qu'on ait moins de temps de parole pour les Outre-mer. » Là, on a eu 4 questions sur 10 qui consacraient les Outre-mer, je crois. GDR, socialiste sur les prix des billets d'avion. Lyot. Non, 3 questions. Ouais, 3 questions sur les Outre-mer. C'est pour ça qu'ils avaient regroupé à la base, parce que les questions s'en tapaient du Conseil des ministres. Non, c'était pas pour ça qu'ils l'avaient fait en 2019. Trop court et aucun impact du Conseil des ministres, et tout comme avant, ne sert strictement à rien. D'accord. Quel est l'intérêt d'avoir changé le format si c'est pour faire passer cette séance après un truc pour que les questions soient abordées ? Mais écoute, j'en sais rien. De toute façon, les groupes sont libres de choisir de poser les questions qu'ils veulent. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, on a simplement scindé la séance de questions au gouvernement en deux. Il y en a une partie qui a lieu le mardi, l'autre partie le mercredi. C'est les temps de parole qui sont trop courts à mon goût. Ah, tu trouves que... 2 minutes de temps de parole, c'est trop court. Moi, je trouve qu'ils arrivent quand même à dire plein de trucs en 2 minutes. Hein. Elle a duré combien de temps, celle d'hier ? Elle a duré 1h15. C'est tellement lunaire, tout ceci. Qu'est-ce qui est lunaire ? Après, je suis pas trop binge-watch, donc ça me va. Ça engraine ma semaine. Oui, exactement, ça égraine dans la semaine, ouais. Et donc là, du coup, les députés se... Enfin, pas les députés, mais les ministres se dirigent vers le Sénat pour la séance de questions au gouvernement au Sénat. J'ai l'impression que c'était seulement la deuxième heure de QAG. Ça fait moins dense. Mais en même temps, ça doit demander des préparations et des organisations moins pratiques. Ouais, ouais. C'est plus dynamique, je trouve. Moi, je trouve que ça dynamise un petit peu plus. Après, j'ai vraiment l'impression que cette séance-là, cette semaine, c'était vraiment la suite de la séance de mardi, hein. J'ai pas l'impression effectivement que Après, en même temps, le Conseil des ministres ce matin, il servait pas à grand chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas un Conseil des ministres révolutionnaire. Est-ce que les députés se rendent au Sénat pour certaines occasions ? Oui, pour des réunions, des rendez-vous ou des commissions mixtes paritaires. S'il y a des commissions mixtes paritaires qui sont déclenchées. C'est assez fou que les infos nationales ne résument jamais les débats à l'Assemblée, ça devrait être systématique. C'est quoi les infos nationales ? J'ai trouvé ça plus limpide et plus fluide, d'accord, ok. Il faut un peu de rodage avec ce nouveau système, non ? Ouais, oui, sans doute. Peut-être qu'il y a besoin de faire du rodage, ouais. Effectivement, c'est possible. Moins de questions, donc moins de responsabilités du gouvernement, c'est dommage. Bah non, tu te trompes, il y a autant de questions qu'avant, ça n'a pas changé. Le nombre de questions n'a pas changé. C'est juste que c'est divisé sur 2 jours au lieu d'être sur une seule journée. C'est beaucoup plus serein que le mardi. Après, ça dépend des questions et ça dépend de l'actualité. Hein. La sérénité des débats, ça dépend beaucoup de l'actualité et de ce qui est en train de faire vibrer les gens. Hein. Ça écourte juste la pause à la buvette. Après, c'est vrai que ça laisse la possibilité que le Conseil des ministres soit abordé s'il s'est passé un truc important. Ouais, c'est ça. Ce matin, le Conseil des ministres, il n'y avait pas grand-chose de très important qui a été discuté. On n'est pas dans ce genre de Conseil des ministres où il y a des décisions drastiques qui sont prises, comme rappelez-vous à l'époque des masques, à l'époque du Covid par exemple, il y avait des Conseils des ministres hautement plus importants. Ça leur laisse plus de temps à bosser dans leur ministère. Et bah c'est mieux. Enfin, encore une fois, je vous rappelle que avant il y avait 2 heures la même journée. Maintenant, il y a 1h15 puis 45 minutes. Donc techniquement, si vous faites le calcul, il y a autant de temps de QAG par semaine. Ça peut peut-être permettre d'avoir plus de ministres disponibles en adaptant les questions à l'emploi du temps. Bon, il n'y a jamais trop de problèmes de disponibilité des ministres. Il y a toujours au moins un ministre délégué qui est là pour répondre. Est-ce qu'on connaît l'ordre du jour du Conseil des ministres ? Ouais, il est public. À la demande de qui s'est fait ce changement ? À la demande des dirigeants de l'Assemblée nationale, donc le bureau de l'Assemblée nationale. Les QAG sont séparés en deux maintenant. Ouais, les QAG sont séparés en deux. Il y a une séance le mardi, une séance le mercredi. Et oui, demain, c'est Backseat. Demain, vous avez une émission Backseat spéciale en partenariat avec France Digital. On va parler d'innovation, on va parler de start-up. Et on va parler surtout de start-up à impact, notamment dans la lutte pour l'environnement, pour la transition agricole, pour la solidarité, etc. Donc, venez demain regarder Backseat. Et notre invité politique de la semaine, ce sera le ministre Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui sera notre invité et qui répondra à nos questions. Ça va être cool. Il revient. Ouais, il revient. C'est un retour. Roland Lescure a déjà été invité de Backseat pendant la saison 2. Et là, nous le réinvitons. Les questions au gouvernement ont-elles une vraie utilité de fond ? Les représentants du peuple interpellent les gouvernants. Est-ce que pour toi, c'est important ou pas ? Voilà, c'est la seule question que tu dois te poser. C'est déjà fini, les séances de QAG ? Oui, c'est déjà fini. Son intervention était plus intéressante la dernière fois, même si pas d'accord sur tous les points. Ouais, bah écoute, on verra. Je vous rappelle qu'on n'invite pas des invités parce qu'on aime bien ce qu'ils disent. On invite des invités parce qu'ils font l'actu politique. Et là, en l'occurrence, à l'occasion de cette émission, on a des questions à poser à Roland Lescure sur la transition écologique, sur l'adaptation de l'industrie à la transition écologique, sur les sites industriels qui polluent. Ça fait partie des questions qu'on veut adopter. Béchu n'a jamais accepté de venir. Si, on discute, mais ça dépend vraiment de l'actualité. Hein. C'est le monsieur aux grandes mains, il avait une vision intéressante. Ouais, exactement. C'est déjà fini. Ouais, c'est déjà fini la séance des questions au gouvernement. C'est un peu plus rythmé du coup. J'ai un souvenir de pas mal de langues de bois pour Lescure lors de son dernier Backseat, je me trompe ou bien ? Mais tu te trompes pas, c'est ton point de vue, il n'y a que toi qui l'as ton point de vue. Hein. Si toi tu entends de la langue de bois, c'est parce que c'est de la langue de bois pour toi. À quel point va-t-il pouvoir dire de nouvelles choses par rapport à la dernière émission, notamment sur le fait que les travaux qu'il présentait sont toujours en chantier ? Et bien justement, il va nous expliquer ça. Je voulais savoir si tu penses quoi de l'intervention du président du groupe Horizon sur les réseaux sociaux pour être confronté tous les jours aux jeunes dans le cadre de mon travail. J'ai l'impression que le problème du cyberharcèlement, etc., se situe plus dans une case de la population type collège que lycée. Je ne sais pas si c'est une impression ou non. Bah, j'en sais rien, il n'y a que toi pour savoir si ton impression est bonne ou pas. Est-ce que tu inviteras Gabriel Attal pour parler du harcèlement scolaire ? C'est possible qu'on invite un jour Gabriel Attal, ouais. Il est ministre de l'Éducation nationale. C'est quand ta prochaine émission avec Samuel Etienne ? C'est à Samuel Etienne d'annoncer. C'est lui qui dit. Ça va toi sinon, Jean? En ce moment, ça va pas très fort. Non, je suis en changement de traitement. Donc, j'ai besoin de me reposer. Mais ça va mettre plusieurs semaines avant que mon traitement se mette à fonctionner. J'ai fait une prise de sang ce matin. Et il faut que je dorme. D'ailleurs, je vais pas tarder à aller faire dodo. Parce que ça me fatigue de streamer. C'est normal. Pas de soucis, ça ira mieux plus tard. Merci les amis d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne suite d'après-midi. Demain, on se retrouve sur Backseat à partir de 18h30. Soyez là demain pour Backseat. Et je vous souhaite une bonne suite de journée. À très bientôt. Salut tout le monde.